Mais j'écoute Radio Plus sur 104.3. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande. Bonjour à tous.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer une commune qui aurait pu très bien rester dans l'ombre, puisque c'est un tout petit hameau de pêcheurs, et donc son histoire va tout d'un coup être bouleversée. Pendant longtemps, il est resté une petite commune de pêcheurs le long de la côte. Il s'agit de Grandfort-Philippe. Alors, Grandfort-Philippe se situe à mi-chemin entre Calais et Dunkerque, au bord du fleuve La, et à son embouchure, pour être précis, et au bord de la mer du Nord. Alors pendant des siècles, c'était un petit hameau donc perdu dans les dunes où vivaient quelques familles de la pêche essentiellement. Ce hameau dépendait de la ville de Gravelines, toute proche. C'était une ville donc déjà importante, Gravelines, une ville aussi fortifiée qui avait un rôle surtout aussi militaire pour contrôler justement l'entrée du fleuve de l'Arve, parce que par ce fleuve évidemment, on remontait jusque la ville de Saint-Omer qui était une ville riche, prospère, industrieuse des Pays-Bas. Saint-Omer, donc, qui faisait partie donc des grands Pays-Bas à l'époque. Donc, Grandfort-Philippe, eh bien, ce petit hameau de pêcheurs, que s'est-il passé pour tout d'un coup avoir un changement dans son histoire? Nous allons donc le découvrir tout au long de cette émission.
venez d'entendre un extrait de musique médiévale inspiré par le film Lord of the Rings. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons aujourd'hui la ville de Grandfort-Philippe, donc qui se situe à mi-chemin entre Calais et Dunkerque. Alors ce fut pendant longtemps un petit hameau de pêcheurs où quelques familles vivaient parmi les dunes. Et tout d'un coup, que s'est-il passé? Eh bien, Grandfort-Philippe, tout d'un coup, va se transformer, va prendre une importance capitale. Mais avant, pour bien comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Alors, nous sommes à la fin du XVIe siècle. La Flandre, et donc Gravelines et tout son secteur, dépendent de la couronne d'Espagne. L'Espagne, comme le Royaume de France et l'Angleterre, se disputent bien sûr la suprématie des mers en particulier. C'est souvent des bagarres, des escarmouches en pleine mer. C'est ainsi que les villes comme Berg et aussi d'autres communes ont bien sûr dépendent directement de la couronne d'Espagne, et évidemment il s'agit de protéger ses ports et ses accès, et évidemment les Anglais n'aiment pas trop bien sûr cette concurrence. De même, le Royaume de France cherche régulièrement bien sûr à embêter, on va dire, bien sûr, la flotte espagnole. Alors, cet hameau, donc, il va prendre petit à petit une grande importance, tout simplement, parce que, l'Espagne cherche à protéger ses navires en particulier, et quand ils se font attaquer, évidemment, de temps en temps, il faut aller se protéger, d'où la nécessité de chercher, à construire une sorte de havre de paix, de refuge, de façon à ce que, les bateaux puissent se protéger et puis bien souvent même se réparer. Alors, disons que pourquoi l'Espagne cherche à protéger ses navires? Et bien tout simplement, elle a vécu un drame assez important, en particulier avec l'affaire de l'invincible Armada. L'Espagne décide, le roi d'Espagne décide à un moment donné d'aller, il a la volonté d'aller envahir l'Angleterre, parce que le roi d'Espagne est un peu agacé par ces attaques répétitives des navires anglais. Et donc il va affréter pas moins de 130 navires avec 30 000 hommes, dont 20 000 soldats, qui vont se diriger donc vers l'Angleterre pour tout simplement les envahir. Les Anglais, ont vent de cette tentative d'invasion. Ils vont présenter devant cette invincible armada à peu près une centaine de navires, 10 000 hommes. Mais les Espagnols n'auront pas beaucoup de chance puisque le combat ne va pas vraiment s'engager, puisque la tempête va disperser cette invincible armada. De nombreux navires vont d'ailleurs échouer entre Calais et Dunkerque. D'autres navires seront dispersés, et ainsi donc l'Angleterre ne sera pas envahie par les Espagnols. Évidemment, se met en lumière pour le roi d'Espagne le fait que, il ne pouvait pas mettre à l'abri ses navires, ce qui lui aurait évité, bien sûr, ce terrible drame, d'où, bien sûr, la vocation donc de Grandfort-Philippe, qui va voir petit à petit ce petit port de pêche se transformer.
Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande.
Et nous évoquons aujourd'hui donc Grand Fort Philippe, donc qui se situe entre Calais et Dunkerque. Donc, le roi d'Espagne avait vécu cruellement la mésaventure de l'invincible Armada, donc qui avait été dispersée essentiellement, bien sûr, par la tempête. Il n'y a pas eu vraiment de combat entre les navires espagnols et anglais. Certes, les galions espagnols étaient puissamment armés, mais ils avaient un gros défaut, c'est qu'ils étaient lourds à la manœuvre, tandis que les navires anglais étaient beaucoup plus souples, plus rapides. Et donc, évidemment, suite à cette leçon, tout simplement, le roi d'Espagne va décider, de construire un havre de refuge pour ses navires, pour, bien sûr, non seulement protéger ses navires en cas d'attaque régulière des navires anglais, voire des navires français, d'ailleurs, aussi. Et il entreprend, donc, la construction d'un canal. Donc, à partir de 1635, il va décider de construire un canal qui va relier donc Gravelines à la mer du Nord. Alors, c'est un travail gigantesque parce que si certes aujourd'hui on parle beaucoup de l'érosion de la côte, il faut savoir que de ce côté-là, régulièrement la mer apporte des alluvions, beaucoup de sable, et d'ailleurs c'est ainsi que des villes comme Damme en particulier, donc d'un port qui était prospère non loin de Bruges, petit à petit va décliner, va connaître une cruelle récession parce que tout simplement le port il est embourbé par les sables et les alluvions. Et donc petit à petit, ce port qui était un port de mer, il devient une ville de l'intérieur. Alors ce travail du canal, va prendre beaucoup de temps. Ils vont mettre près de 2 ans pour réaliser ces travaux. Des travaux donc très importants. Ils vont aussi construire donc une espèce de grand bassin, qu'on va d'ailleurs appeler la flaque des Espagnols, ce bassin donc où vont pouvoir se réfugier les navires en cas d'attaque. Le nom de, donc il y a une construction bien sûr de bastions militaires pour protéger bien sûr l'accès, et on construit une gigantesque écluse également pour bien sûr réguler l'entrée de ce canal. Le nom qu'on donne à ce site, c'est le fort Saint-Philippe, Philippe en référence au nom du roi d'Espagne. Il a fallu donc 2 ans pour construire ce chenal. Donc les travaux se terminent vers 1637. Et le fort Saint-Philippe subit bien sûr régulièrement des attaques, et en particulier aussi des troupes françaises. Et c'est ainsi que le fort Saint-Philippe va devenir français après le traité des Pyrénées le 7 novembre 1659.
Vaarwel, mijn griet, en ik ga naar de zee. De wind is reeds noordoost. Het schip ligt zeil klaar op de ree. Dus grietje, wees getroost. Straks kom ik weer naar het is niet jaloers, mijn lieve Griet, al zeg ik u vaarwel. Die bruine meisjes kus ik niet, die zijn zo zwart van vuil. Maar de stuurman kwam aan het
d'entendre Laïs, vous interprétez de Vals Zeman, Le Faux Marin. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons la cité de Grand Fort Philippe, dont le nom d'origine était le Fort Saint-Philippe. Saint-Philippe, en référence, bien sûr, au prénom du roi d'Espagne. Alors, le Fort Saint-Philippe est tombé dans les mains des Français, donc avec le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659. Les Français vont très vite détruire les bastions, parce que, bien sûr, eh bien, on est sur la zone frontière, donc, évidemment, comme on peut l'imaginer, eh bien, l'Espagne ne va pas forcément baisser tout de suite les bras. Il y a des attaques régulières et en particulier en mer. Les affrontements entre les navires français, anglais, espagnols et voire aussi ceux des Pays-Bas, des Provinces Unies du Nord. Eh bien, c'est régulièrement donc des escarmouches, des bagarres en pleine mer et évidemment la flaque des Espagnols qui servait auparavant donc à protéger les navires d'Espagne. Eh bien, le royaume de France craint toujours, bien sûr, qu'il soit récupéré. Et donc, ils ont trouvé une solution, simplement, eh bien, c'est de casser l'écluse, de raser les bastions. Et évidemment, par voie de conséquence, alors que la population avait commencé à bien grandir dans la cité, eh bien, cette population, tout simplement, eh bien, voyant que le port est complètement envahi par la vase et les sables, eh bien, va traverser le fleuve de là pour aller s'installer un peu plus loin, bien sûr, pour retrouver une activité plus sympathique, en particulier l'activité de pêche. Néanmoins, eh bien, les Français, sous le règne de Louis XV, décident, lui, eh bien, de réexploiter ce canal et donc de relancer le creusement de ce nouveau canal. Mais voilà, il y avait plus beaucoup de population sur place et certains, eh bien, il faut chercher bien sûr de la main d'œuvre et il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire venir des gens et donc le roi de France, eh bien, va chercher des familles, en particulier en Artois, mais surtout en Picardie, et donc il va, disons, les amener à venir travailler dans le creusement de ce canal. Et c'est ainsi que, en pays flamand, eh bien, il va avoir une sorte d'enclave de gens qui parlent simplement le Picard et qu'encore aujourd'hui, eh bien, on parle donc beaucoup, les anciens parlent encore cette langue de Picardie, le Picard tout simplement, alors que tout autour, évidemment, à l'époque, on parlait le flamand. On construit donc à l'embouchure de l'Aa un second fort, ainsi des deux côtés de l'embouchure de l'Aa vont se construire des bastions militaires, bien sûr, et ainsi nous allons avoir face à face des deux côtés du rivage de l'Aa, Grand Fort Philippe et Petit Fort Philippe. Alors les gens de Dunkerque, évidemment, ont un nom affectif pour ces deux cités, puisque quand on est dunkerquois, et bien tout simplement on ne parle pas de Grand Fort Philippe et Petit Fort Philippe, mais tout simplement de Grand Fort et de Petit Fort.
Vous interprétez un chant traditionnel de Flandre maritime, et Etijzen, l'absence. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et donc, nous évoquons aujourd'hui donc Grand Fort Philippe. Alors, donc sous le règne de Louis XV, vers 1740, le roi de France décide de construire à nouveau le chenal, et à son embouchure, on construit un second fort. Il est composé d'un fort carré à l'est et d'un ouvrage à cornes du côté occidental. Et ainsi donc naît, on va dire, la ville de Grandfort. Le creusement du chenal, évidemment, va attirer à nouveau les familles, des familles de pêcheurs en particulier, qui étaient non loin de là. Ils viennent s'installer à l'embouchure, puisque l'accès naturellement est beaucoup plus facile pour aller en mer, pour aller à la pêche. Les activités vont cesser de croître et la population va petit à petit devenir de plus en plus importante. Et c'est ainsi que, au début du 19e siècle, le hameau de Grandfort Philippe va prendre une réelle vocation de pêche, une pêche en particulier, la pêche à la morue. Pêche à la morue que l'on pratique au large des côtes d'Islande. Et c'est ainsi d'ailleurs que c'était une véritable tradition de Ostende jusque Gravelines que les pêcheurs allaient donc à la pêche à Islande, comme on dit. Un travail particulièrement difficile aussi bien pour les hommes que pour leurs conjoints. Et ici, nous allons écouter quelques extraits justement qui évoquent la vie particulièrement difficile donc des pêcheurs à Islande.
Donc c'est un extrait d'un livre intitulé « Ce que les pêcheurs d'Islande racontaient ». La discipline était stricte et le commandant régnait en maître. Quand les pêcheurs avaient donné leur accord, les épouses allaient le dimanche suivant chez la couturière du village acheter les fournitures pour l'habillement, c'est-à-dire pantalons, vareuses, suroît, c'était une sorte de chapeau. Le tout était en toile comme les draps. On achetait les sabots avec deux ou trois pointures trop grandes pour pouvoir les mettre avec des chaussons. Les vêtements étaient imperméabilisés avec de l'huile de lin et ils étaient mis au grenier pour sécher pendant une quinzaine de jours. On clouait de la toile sur les sabots pour faire les bottes qui arrivaient jusqu'aux genoux, comme celles de Jean Bar. Donc ça, c'est un extrait expliquant un peu tous les préparatifs quand le pêcheur se décidait à prendre la mer pour partir en campagne de pêche. Il y avait donc toute une préparation, ne serait-ce que déjà pour la tenue vestimentaire. Les femmes de nos pêcheurs n'avaient pas non plus la vie belle. Elles trimaient, pliées en deux, sur leur lopin de terre, puisque le père était en mer. Régulièrement, elles allaient elles-mêmes dans la grande mare avec le filet pour pêcher un peu de crevettes. Elles exigeaient beaucoup d'elles-mêmes, aussi bien physiquement que moralement. Souvent, elles pensaient inconsciemment à leur mari. Rentrera-t-il sain et sauf à la maison? Fera-t-il un bon voyage? En plus du dur travail et de leur fatigue psychologique, elles avaient encore la lourde charge des enfants. Elles se trouvaient seules pour faire leur éducation et devant tous les problèmes que cela pouvait poser. On pourrait même un peu aussi comparer la vie des femmes de pêcheurs avec la vie des femmes de mineurs qui n'étaient pas non plus très faciles. Les armateurs. Pour les armateurs, seul le résultat de la campagne de pêche comptait. Si celui-ci était mauvais, les pêcheurs devaient rembourser les acomptes perçus au départ. Il ne leur restait plus qu'à aller travailler au champ ou à l'usine jusqu'à l'année suivante. Entre voisins, la fraternité régnait. On faisait des quêtes parmi les équipages les plus chanceux. Quand la pêche était bonne, au bout de 3 ou 4 mois, les navires allaient faire relâche dans les baies ou sur rade. Les pêcheurs allaient à terre avec de petits bateaux à rames, car l'eau n'était pas assez profonde pour les navires. Ils lançaient un filin muni d'un plomb et comptaient les brasses, il y a des mètres, pour approcher quand même le plus près du rivage. Une fois à terre, ils allaient chez les habitants pour faire des échanges. Cognac ou eau-de-vie contre de la belle laine à matelas et de beaux costumes. Voilà, ce sont donc, je viens de vous lire 3 extraits d'un livre intitulé « Ce que les pêcheurs d'Islande racontaient », écrit par Wim Lansvert.
Donc, témoignage, bien sûr, très important, et je ne peux que vous inviter à lire cet ouvrage. La vie des marins pêcheurs, de la pêche à la morue, était un travail très difficile. Ils partaient 6 à 7 mois en mer, dans la mer du Nord, hein, donc on est loin d'une mer facile, et un travail très très compliqué, et bien sûr avec la crainte pour les épouses de ne pas voir le mari et le fils rentrer après cette campagne de pêche.
Eind jaar 1700, je moon is zeven wonder, we gaan al naar die poort, om te slaan in akkoord. En het is in de mond van maar, dan klormaker van de vaart, als klormaken was het oor, wel verstaat hou en hou, moet men aan de fooie hou.
Ik mis ze lief en prezen, moet in de fooie wezen, spel me al tot beslut, spel the walls are so made of maid. This night, adieu, I say. Oh, the four you was at home. Well, for snow, tow at home. Moeten we toe zeilen home.
Voor eerst moesten we zeilen 360 mijlen. Zo passeren we het zand. Lustig, geestig, plezant. Dus de koers is kleihadder en we lopen zo getreur. We kregen fire en land zegt, het is niet slecht, heel licht, dat met eiland vul ons zwecht.
Dus ja, je zee wilt weten, daar is geen grond te meten. We zeilen toe weer voort, lang ver wij angst hiervoort. Zetten onze koers als daar, rechten aan de Westermaas. Toen zullen we met vele spoed, met gemoed, al zo zoet, totdat we de berg ik lag roet.
Toen bieden we het schoren, de koeders mee geworden, en ziet toch niet belanden, zie waar je de jogger staan. Me voort toe weer voort, naar de hoek van brede fjord, al op je carregador. Nee, woord zo behoort, al de wesmop en de boord.
Met rozen, chef courage, met een elfant d'équipage, knuffer en stagselin, dat hoon on is gewin. O, de maand mij is verschin, wacht me de westenwind, me vers me hoe moed, al zo zoet en mispoed, tot me kregen de wind hoed.
De boja heeft geen vers mee, het is voor nu zijn hart zeer. We lopen van de voort tot een hoek van die rivier. En de visserie wordt aan, is nu aan de westen aan. We zullen van de weer voort, mee akkoord, zond behoort, totdat we komen bij Kap Noord.
De maand juli aprezen, die komt toen uit het reden. We zeilen van de voort, al zeg adieu Kap Noord. We lopen riem en gemoed, en we zeilen met veel spoed. Naar de rode Noekazot, en toen nog de blauwe boy heeft veel kabeljo hem rood.
Oostman komt aan het reden, hij kwam ze lief op reizen. We lopen langs de zuid, en toen is kolen uit. Al de vecht in de dag draait, en de wind van noorden waait. Ik ben stop ze lief matresse, die het al beste voor een lessen. Ik zeg dat je lang nessen.
Het nu maar lopen, ga voor de winden stropen, met groot marcel en top.
Schepper, breng de paddel op.
We roepen stierman aan van boord, zie daven van nieuw boord. Toen lopen we weer ervoor, meer woord zot de hoor, langs de kust tot de kerken voor.
Vous venez d'entendre un chant des marins de Flandre, Reis nar Island, le voyage vers l'Islande, chanté par Clerc chez Gérard Riquebourg, chant traditionnel des marins. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons la cité de Grand Fort Philippe. Et donc, justement, le pêcheur à Islande, eh bien, c'était évidemment une campagne très très difficile, et donc les marins pêcheurs eh bien se mettaient sous la protection en particulier de la Vierge Marie. Et encore aujourd'hui, s'il y a une manifestation à aller voir, en particulier donc à Grand-Fort-Philippe, c'est bien sûr le 15 août, la fête à Marie, où c'est une véritable fête qui est très prisée, bien sûr, c'est quasiment comme 14 juillet. C'est très important, toutes les maisons sont décorées de filets de pêche. Certaines maisons même dressent un petit autel ou au cours d'une procession où on sent encore une grande ferveur envers la Vierge Marie, eh bien amène donc les familles vers le grand calvaire qui a été dressé bien sûr en mémoire des marins péris en mer. C'est aussi eh bien l'occasion puisque bon même si c'est pas toujours très gai évidemment quand on doit se souvenir de ceux qui ont perdu la vie en partant à la pêche à la morue, eh bien c'est aussi l'occasion de savourer une spécialité de Grand-Fort-Philippe, une pâtisserie bien particulière et donc pour bien sûr faire tout simplement la fête. Et donc Marie-Jo va vous donner l'explication de cette spécialité locale.
Grand-Fort-Philippe est célèbre pour son cululute, une grosse brioche truffée de raisins, à manger avec une sauce aromatisée au rhum. Il doit son nom à Ernest Clerc, surnommé Lulute, qui était ouvrier boulanger et il a inventé cette pâtisserie, ce gâteau, vers l'an 1900. L'histoire dit que les marins allaient dans une boulangerie et criaient « Un cul, Lulute !» pour demander cette brioche ayant une forme très ronde, inventée par le boulanger surnommé Lulute. L'expression est devenue un mot par l'association des mots « cul » et « Lulute ». Cette brioche servait autrefois aux marins pêcheurs de la ville. Ils prenaient des cululutes en mer qu'ils plongeaient dans du rhum ou du vin chaud avant de les manger pour se réchauffer longtemps lors des grosses tempêtes en mer.
Voilà, donc c'était une façon de se faire plaisir. Et puis aujourd'hui, donc c'est devenu une tradition. Donc il faut bien sûr savourer ce cululute. Grand-Fort-Philippe, eh bien, grandit petit à petit. La population devient de plus en plus importante. Et c'est en 1884 que, eh bien, la commune décide de se détacher de sa suzeraine Gravelines et demande donc son indépendance. L'activité principale, bien sûr, reste la pêche à l'Islande dont on vient de parler. Toute l'économie de la commune se tourne, bien sûr, autour de la pêche avec les cerisories, les fabriques de cordage, les ateliers qui vont, bien sûr, traiter le poisson, mais aussi construire et réparer les navires, bien sûr. Ces activités ont eu une belle expansion jusque le milieu du XXe siècle, mais l'industrialisation de la pêche va marquer bien sûr un coup d'arrêt et petit à petit, eh bien, naturellement, ces activités vont connaître un déclin et c'est ainsi que ça va plus ou moins disparaître à partir des années 60. La ville de Grand-Fort-Philippe, va bien sûr s'orienter vers d'autres activités, mais malheureusement, va perdre vraiment sa grosse vocation de port de pêche.
Der dreif der rüstig Schip vorbei, ein Schip von alten Eisern. Je dubt me Wein auf me Champagne, der König hin auf Kaiser. Ein Schip ist alt, sein ist der Eis, das ist allein vergeten. Alleen de starre die er stond, die zullen dan nog weten. Na drijf het stil onder de maan, je wangen in de boren. Daar is Marien Lanterolom, de rijderij moet sporen. Maar door het schijnsel van een star, waar het zoal vergoten,
dat al de masten en de schaar volle zilver zijn gespalten. En er komt de morgen in de lucht en vloeken dan de meeuwen. Dan laat het schip zijn kleuren zing en de matrozen geven. Ze blazen de lanteren lood en al de staren pinken naar die verroeste kargaboot die nooit hij willen zinken. De Nielen dag trekt zijn boog, na witte weg in het water. Gelijk een grote bob de ploeg en zo valt het vergoot er. Dat het ineens weer donker is en dat de starre pinken naar het ijzeren verdoemen is die nooit hij willen zinken.
Un schip, un bateau, interprété par Vanès van de Velde. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc la cité de Grandfort-Philippe Grandfort, comme on dit à Dunkerque. Alors que, bien sûr, il y a des petites choses sympathiques à aller voir. Naturellement, ne serait-ce que déjà toutes les maisons des pêcheurs, l'architecture très caractéristique. Hein, ce sont des petites maisons donc qui se serrent les unes auprès des autres, comme une sorte de solidarité entre marins-pêcheurs. Bien sûr, situées tout autour de l'église, ce sont des maisons de briques, avec du torchis et aussi très caractérisé par souvent peint avec des couleurs vives qui donnent de la vie, de la gaieté. Jadis, bien sûr, ces maisons étaient recouvertes de chaume, mais bien sûr pour des raisons de sécurité petit à petit. Le chaume a été interdit et donc il a été remplacé par les fameuses tuiles, les pannes flamandes. Alors ce sont des maisons qui étaient souvent, comme on dit aujourd'hui, des plains-pieds, mais bien sûr les combles de ces maisons ont été petit à petit aménagés parce que les familles à l'époque étaient bien sûr, ils avaient de nombreux enfants et donc il fallait un petit peu essayer de trouver des espaces pour les chambres et loger tout le monde. Une autre caractéristique de la cité, c'est bien sûr les fameux ateliers de sorisserie, là où on fume bien sûr le hareng donc qui était l'activité principale du port de Grandfort. Ces bâtiments, ils sont assez caractéristiques car ils sont construits avec des cheminées très hautes qui peuvent dépasser jusqu'à 5 mètres au-dessus des toits des maisons. Ce sont des espèces de grandes cheminées avec une base assez large et qui remontent un petit peu comme des pyramides et surmontées d'une sorte de petit chapeau où on sentait bien sûr l'odeur si caractéristique du hareng bien sûr qui est fumé. Autre chose aussi à aller voir, eh bien sûr, c'est l'église Notre-Dame de Grâce qui a été construite en 1862. C'est une église, bien sûr, qui est surtout consacrée, bien sûr, aux pêcheurs. Hein, les vitraux sont consacrés naturellement au monde de la pêche, en particulier la fameuse pêche miraculeuse qu'on peut retrouver dans les évangiles. Une autre où on montre que le Christ calme la tempête. Donc évidemment, l'iconographie elle est tournée bien sûr vers les activités maritimes, vers les activités de pêche. C'est une belle et grande église donc qui date de 1862. Autre chose à aller voir, bien sûr, c'est la Maison de la Mer qui date du 19e siècle. C'est un bâtiment donc qui faisait face à la criée, qui a abrité longtemps une école d'apprentissage, en particulier, bien sûr, toujours tournée vers la pêche, hein, évidemment. Aujourd'hui, eh bien, c'est un bâtiment qui est consacré au patrimoine et aux traditions maritimes et qui retrace, bien sûr, l'histoire locale. Un autre bâtiment caractéristique qui fait d'ailleurs l'objet souvent d'une illustration, c'est la maison du sauvetage. Alors c'est une maison du sauvetage typique avec ses pans à pas de moineau qui date de 1937. C'est une maison qui a été bien sûr consacrée au sauvetage en mer, hein, puisque eh bien là aussi il fallait des bénévoles pour eh bien aller chercher les navires qui étaient en péril, et donc ce bâtiment abritait donc un canot. Alors par le passé, évidemment, il n'y avait pas de moteur, hein, c'était des canottes avec des rames, donc il fallait être costaud pour aller chercher le navire qui était en péril et menacé tout simplement de couler. Donc c'est une maison caractéristique de cette cité de Grandfort-Philippe. Bien sûr, il y a encore plein d'autres choses à visiter, et naturellement. C'est un site magnifique avec bien sûr le bon air de la mer du Nord. L'émission touche déjà à sa fin. Eh bien, nous allons vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus et à la semaine prochaine.
Nous allons terminer avec un chant traditionnel de Flandre intitulé Warme Garnars, c'est les crevettes chaudes.
Warme Hannes